Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 11, chapitre 2. Caresse du pape, progrès de la réforme, l'image de Stadelhofen, sacrilège, les ornements des saints. La réformation l'emportait. Elle devait maintenant hâter ses conquêtes. Après cette bataille de Zurich, où les plus habiles champions de la papauté étaient demeurés muets, qui aurait encore le courage de s'opposer à la doctrine nouvelle? Cependant, on essaya d'autres armes. La fermeté de Zwingli et ses allures républicaines imposaient à ses adversaires. Aussi recourut-on, pour le subjuguer, à des moyens particuliers. Tandis que Rome poursuivait Luther de ses anathèmes, elle s'efforça de gagner par la douceur le réformateur de Zurich. À peine la dispute était-elle terminée que Zwingli vit arriver le capitaine des gardes du pape, fils du bourgmestre Roust, accompagné du légat Heinsius, chargé pour lui d'un bref pontifical, où Adrien VI appelait Zwingli son fils bien-aimé et lui faisait connaître sa faveur toute particulière. En même temps, le pape faisait presser Zinck de gagner Zwingli. « Et qu'est-ce que le pape vous charge donc de lui offrir ?» demanda Oswald Myconius. « Tout, répondit Zinck, excepté le siège pontifical. Il n'y avait pas de mitre et de crosse, il n'y avait pas de chapeau de cardinal, au prix duquel le pape n'eût voulu gagner le réformateur zurichois. Mais Rome se faisait sur son compte d'étranges illusions. Toutes ses offres étaient inutiles. L'Église romaine avait en Zwingli un ennemi plus impitoyable encore que Luther. Il se souciait moins que celui-ci des idées et des rites des siècles antérieurs, et il lui suffisait qu'à une coutume, innocente en elle-même, se trouva attachée quelque abus pour faire main basse sur elle. La parole de Dieu, pensait-il, devait seule demeurer debout. Mais si Rome avait si peu l'intelligence des choses qui se passaient alors dans la chrétienté, elle trouvait des conseillers qui cherchaient à la remettre dans la voie. Faber, irrité de voir le pape s'abaisser ainsi devant son adversaire, se hâta de l'éclairer. Homme de cour, ayant toujours le sourire sur les lèvres, des paroles mielleuses dans la bouche, il était, à l'entendre, l'ami de tout le monde, et de ceux même qui l'accusaient d'hérésie. Mais ses haines étaient mortelles. Aussi, jouant sur le nom de Faber, le réformateur disait-il, « Le vicaire de Constance est un forgeron de mensonges. Qu'il court franchement aux armes et qu'il voit comment Christ nous défend. » Ces paroles n'étaient pas une vaine bravade, et tandis que le pape parlait à Zwingli de ses éminentes vertus et de la confiance particulière qu'il avait en lui, les ennemis du réformateur se multipliaient en Suisse. Les anciens soldats, les grandes familles, les pâtres des montagnes unissaient leur haine contre cette doctrine qui contrariait leur goût. À Lucerne, on annonçait le spectacle pompeux de la passion de Zwingli. En effet, on traînait au supplice un mannequin qui représentait le réformateur, en criant qu'on allait mettre à mort l'hérétique. Et, saisissant quelques Zurichois qui étaient à Lucerne, on les obligeait à être spectateurs de cette ridicule exécution. « Ils ne troubleront pas ma paix, » dit Zwingli. « Christ ne manquera jamais aux siens. » La diète elle-même retentissait de menaces contre lui. « Chers confédérés, disait au canton le conseiller de Mulinen, opposez-vous à temps à la cause luthérienne. À Zurich, on n'est déjà plus maître dans sa maison. » Cette agitation des adversaires annonçait ce qui se passait dans Zurich, mieux encore que toutes les proclamations n'eussent pu le faire. En effet, la victoire portait ses fruits. Les vainqueurs prenaient peu à peu possession du pays, et chaque jour, l'Évangile faisait de nouveaux progrès. 24 chanoines, un grand nombre de chapelains, vinrent eux-mêmes demander au Conseil une réforme de leur statut. on résolut de substituer à ces prêtres paresseux des hommes pieux et savants, chargés de donner à la jeunesse zurichoise une instruction chrétienne et libérale, et d'établir, à la place de leurs vêpres et de leurs messes latines, une explication quotidienne d'un chapitre de la Bible, d'après les textes hébreux et grecs, d'abord pour les savants, puis aussitôt après pour le peuple. Il y a malheureusement dans toutes les armées de ces enfants perdus qui se détachent des corps de bataille et portent trop tôt l'attaque sur des points qu'il fallait encore respecter. Un jeune prêtre, Louis Hetzer, ayant publié en allemand un livre intitulé « Jugement de Dieu contre les images », cet écrit produisit un grand effet, et les images devinrent la préoccupation constante d'une partie de la population. Ce n'est qu'au détriment des choses essentielles qui doivent l'occuper que l'homme se préoccupe de choses secondaires. Un crucifix ciselé avec soin et richement orné était placé en dehors de l'une des portes de la ville, au lieu appelé Stadelhofen. Les hommes les plus ardents de la Réforme, choqués des superstitions auxquelles cette image donnait lieu, ne pouvaient plus passer près d'elle sans exprimer leur indignation. Un bourgeois nommé Claude Oettinger, homme honnête, dit Bullinger, et bien instruit dans la Sainte Écriture, ayant rencontré le meunier de Stadelhofen, auquel le crucifix appartenait, lui demanda quand il ferait abattre ses idoles. « Personne ne t'oblige à les adorer, » avait répondu le meunier. « Mais ne sais-tu pas, » avait repris Oettinger, « que la parole de Dieu nous défend d'avoir des images taillées ?»« Eh bien, » reprit le meunier, « si tu es autorisé à les abattre, je te les abandonne. » Oettinger se crut en droit d'agir, et peu après, c'était un des derniers jours de septembre, on le vit sortir de la ville avec une compagnie de bourgeois. Arrivé près du crucifix, ils creusèrent tranquillement tout alentour jusqu'à ce que l'image cédât à leurs efforts et tombât à terre avec bruit. Cette action hardie répandit partout l'effroi. On eût dit qu'avec le crucifix de Stadelhofen, la religion même avait été renversée. « Ce sont des sacrilèges, ils sont dignes de mort !» s'écriaient les amis de Rome. Le conseil fit saisir les bourgeois iconoclastes. « Non !» dirent alors du haut des chairs Zwingle et ses collègues. « Oettinger et ses amis ne sont pas coupables envers Dieu et dignes de mort, mais ils peuvent être châtiés pour avoir agi avec violence et sans l'autorisation des magistrats. » Cependant, des actes semblables se multipliaient. Un vicaire de l'église de Saint-Pierre, voyant un jour devant l'église beaucoup de pauvres sans vêtements et sans nourriture, dit à l'un de ses collègues, en portant les yeux sur les images pompeusement parées des saints, « Je voudrais dépouiller ces idoles de bois pour revêtir ces pauvres membres de Jésus-Christ. » Peu de jours après, à 3 heures du matin, les saints et tous les ornements disparurent. Le conseil fit jeter le vicaire en prison, bien qu'il déclara n'être point coupable de ce fait. « Et quoi ? » s'écria le peuple. « Est-ce des morceaux de bois que Jésus nous a ordonné de vêtir ? Est-ce à l'occasion de ces images qu'il dira au juste « J'étais nu et vous m'avez vêtu ?» Ainsi la réformation repoussée s'élevait avec d'autant plus de force. Et plus on la comprimait, plus elle s'élançait avec violence et menaçait de tout renverser.